Maintenant, j'en viens à la présentation de notre conférencier de ce soir, Philippe Biche. Philippe Biche est né en 1949. Il est directeur général adjoint scientifique et technique du groupe Sechaux-MS. Je vais donner des mots maintenant sur son parcours. Il a fait ses études à l'École nationale des ponts et chaussées, promotion 1971. De 1972 à 1988, il est maître de conférences puis professeur adjoint au cours de mécanique à l'École nationale des ponts et chaussées. Depuis 1995, il est professeur de dynamique et stabilité des structures dans l'industrie à l'École nationale des ponts et chaussées. À partir de 2002, il est professeur des cours de mécanique des structures et de plaques école, toujours à l'École des ponts et chaussées. Il a également enseigné à l'École normale supérieure de Cachan, au Centre des hautes études de la construction et à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Pour ce qui est de son parcours professionnel, mais là, au niveau de sa pratique professionnelle, de 1972 à 1976, il est ingénieur d'études dans les études d'ouvrages d'art au BE Structech. Et depuis 1976, il participe au développement de Sechaux-MS. Philippe Biche est spécialiste de l'analyse statique et dynamique des structures. Il a participé activement à la normalisation française et européenne en matière de construction parasismique. Il est le co-auteur de 3 ouvrages. La modélisation des ouvrages paru en 1995 aux éditions Hermès, Comportement dynamique des bétons et génie parasismique, paru en 2004 aux éditions Hermès et en cours de parution aux éditions du Moniteur, les Eurocodes. Voilà, je lui cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat d'une quinzaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Bien, je vous remercie de m'accueillir ici. J'avais demandé à la famille et aux amis de venir, mais je vois que vous êtes beaucoup plus nombreux, donc j'en suis très content. Et je vais essayer de faire en sorte que ce que je vais dire vous intéresse. Donc on va parler des structures des grands bâtiments. Alors dans mon esprit, grand bâtiment, c'est pas forcément vers le haut, ça peut être aussi dans l'autre sens ou un petit peu n'importe comment. Je dirais, je vais surtout essayer de parler d'ouvrages un petit peu exceptionnels. Et pour ça, j'aborderai 3 volets. Une partie peut-être un petit peu technique, mais sur quoi base-t-on la conception d'un ouvrage, d'une structure. Ensuite, on verra 2 fonctions des bâtiments, la fonction de portage qui est évidemment la fonction naturelle et la fonction de contreventement qui pose généralement quelques problèmes et qu'on essaiera donc d'examiner un peu plus en détail. Alors la conception est basée sur un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'est la fonctionnalité. Quand on construit un bâtiment, c'est pour en faire quelque chose, donc on va l'occuper. Alors, ça peut être des bâtiments de logements, de bureaux, mais ça peut être toutes sortes de bâtiments. Ça peut être des halls de gare, de spectacles, des amphithéâtres, etc. Le deuxième objectif qu'on a, c'est évidemment la stabilité et la résistance qui sont naturelles. On veut protéger les gens qui utiliseront ces ouvrages. Et le troisième volet, c'est la durabilité, qui est de plus en plus pris en compte pour des raisons économiques évidentes. Alors pour ce qui est des aspects techniques, il y a des textes sur lesquels on doit se baser. Alors les textes, les premiers, c'est les textes réglementaires, les lois, les décrets, les arrêtés, etc. Et puis toute une série de textes techniques qui forment le corpus de normalisation, qui touche différents aspects de la conception, pas simplement les structures. Alors, la conception des bâtiments est en général partagée entre 2 acteurs. Le premier, c'est l'architecte, qui va faire une création architecturale et qui, en général, réglera les problèmes de fonctionnalité. Et puis, l'ingénierie, qui, elle, se penchera sur les problèmes purement techniques, enfin plus purement techniques, de stabilité, de résistance, de durabilité et d'économie. Alors, pour concevoir un bâtiment, il faut faire appel à différents métiers. Ce qu'on appelle les corps d'État. Alors le premier, bien évidemment, concerne le gros œuvre, la structure, mais évidemment, on aura également du second œuvre, de la peinture, des moquettes, des cloisons, etc. Il y aura également, surtout dans les bâtiments modernes, une grande part consacrée au réseau, tout type de réseau, au gaz, électricité, et évidemment, maintenant, tout ce qui est lié à la vidéo, la communication, etc. Le chauffage, la climatisation. Bon, l'acoustique également. Bon, j'en oublie certainement. Enfin, vous voyez des techniques extrêmement diverses qui, rassemblées, participent à la conception d'un bâtiment. Alors moi, évidemment, je vais surtout parler des structures. Alors les structures, sur quoi va-t-on fonder leur conception? D'abord sur un certain nombre d'exigences réglementaires et normatives, je l'ai déjà dit. mais dont un certain nombre ne sont pas de nature structurelle. Hein, l'incendie, la protection contre l'incendie, les problèmes d'acoustique, tout ça induit en fait des contraintes qui vont jouer largement sur les structures. De la même façon, les problèmes architecturaux, hein, que ce soit au niveau de la fonctionnalité des ouvrages ou des formes, tout simplement, vont induire d'une part des formes, donc qui vont jouer évidemment sur la géométrie des structures, mais également sur la consistance des structures elles-mêmes. Par exemple, on sait très bien que pour résoudre des problèmes d'acoustique, eh bien, il faut mettre une épaisseur minimale de béton. Eh bien, cette épaisseur qui est importante pour l'acoustique n'est pas nécessairement utile pour l'aspect structural. Alors, sur quoi va-t-on baser la conception des structures ? Eh bien, j'ai pris ici un principe qui est donné dans l'EN 1990. Alors, vous m'excuserez de cette appellation barbare. On va appeler l'Eurocode 0, même si ce n'est pas exactement sa dénomination. C'est le fondement des bases de calcul qui va maintenant être utilisé dans les normes structurales européennes. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans cette EN 1990 ? Eh bien, on lit un principe qui contient presque tout, si on veut bien le lire attentivement. Une structure doit être conçue et réalisée de sorte que, pendant sa durée de vie escomptée, avec des niveaux de fiabilité appropriés et de façon économique, premièrement, elle résiste à toutes les actions et influences susceptibles d'intervenir pendant son exécution et son utilisation. Elle reste adaptée à l'usage pour lequel elle a été conçue. Alors, dans cette simple phrase, on voit apparaître beaucoup de choses. Hein, on voit d'abord apparaître la notion de durée de vie. Et comme on dit que ça doit rester fonctionnel pendant toute la durée de vie, évidemment, ça sous-tend tous les problèmes de durabilité. Si on construit un ouvrage pour 50 ans, eh bien, la 50e année, il doit être dans un état acceptable vis-à-vis de l'usage pour lequel on l'a conçu. Alors, il y a d'autres notions plus techniques qui apparaissent là-dedans, notamment une notion assez importante sur laquelle je vais revenir, qui est celle de fiabilité. Aujourd'hui, les concepts de conception d'ouvrage, de structure, ne sont plus entièrement déterministes. Il y a un background, si vous me pardonnez ce terme anglais, probabiliste, qui est de plus en plus important, hein, et qui intervient donc dès la conception elle-même, tout au moins dans la façon dont les normes sont écrites. Alors je vais essayer de donner quelques images. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une structure ? Alors c'est extrêmement variable, hein. Je vais mettre ici trois catégories, simplement pour faire simple. On rencontre des structures, donc c'est le squelette, si vous voulez, des bâtiments, qui permet de résister à des efforts de différents types. Alors le premier type que je montre ici, est constitué d'ensembles de poutres et de poteaux. C'est un mode de construction effectivement extrêmement ancien, hein, puisque les anciens au Moyen-Âge et même avant faisaient des bâtiments avec des poutres en bois. Donc c'est exactement le même principe qui est utilisé, sauf que maintenant, bien entendu, on n'utilise plus que le bois, on utilise toujours le bois, mais on utilise surtout le béton, l'acier, ou des poutres mixtes en béton et en acier. Alors ces structures-là sont des structures assez souples, elles fonctionnent en flexion. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas habituées aux termes qu'on utilise habituellement en structure, alors je n'ai pas d'outils pédagogiques, mais je vais essayer de faire avec les mains. La traction, c'est quand on tire sur un élément rectiligne. La compression, c'est quand on comprime. Je pense que tout le monde comprend. La flexion, c'est quand on fait fléchir. Donc, quand vous montez sur une planche en bois, par exemple, vous voyez bien qu'elle prend une flèche. Donc, ça, c'est un travail en flexion. Et puis, un autre terme que j'utiliserai, qui est la torsion. Donc, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein. C'est tordre, comme ça, comme quand vous tordez le linge pour l'essorer. Hein. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, évidemment, ce sont des modes de fonctionnement qui sont extrêmement spécifiques les uns les autres, il faut les étudier séparément ou ensemble, hein, et l'ingénieur de structure essaye de faire en sorte que les ouvrages puissent résister à ces types de sollicitations. Alors j'en viens à ces constructions en ossature, ce sont des structures qui fonctionnent essentiellement en flexion, un petit peu en compression évidemment pour les poteaux qui subissent les effets du poids propre, et c'est des structures qui sont assez ductiles. Alors, j'expliciterai tout à l'heure ce que c'est que la ductilité. Un deuxième type de construction assez courant, surtout en France, c'est constitué de construction où ont été disposés des murs. Alors ce que j'appelle voile ici, c'est un terme d'ingénieur de structure, c'est les murs, hein, tout simplement. Alors les murs, ça peut être en béton, ça peut être en maçonnerie, hein, ça peut également être des panneaux métalliques ou des panneaux de bois, ça se fait également, plus rarement, mais ça existe. Ou alors des palets de contreventement, qui sont des palets métalliques, je vais vous en montrer. Ce sont des structures qui sont assez raides, hein, donc quand on parlera de dynamique, on sera dans des domaines de fréquence qui sont notablement plus élevés pour ce type de structure que pour ceux-ci. Et puis le troisième type, c'est les boîtes bien fermées, les constructions tubulaires. Alors on construit aussi pas mal comme ça en France, puisque souvent les structures sont faites de murs en béton banché, peu armé, mais très raide. Hein, et ces structures-là sont encore sur des fréquences beaucoup plus élevées et sont relativement peu ductiles. Par contre, elles sont relativement résistantes. Alors, des petits exemples. Bon, voilà une structure métallique. Alors, on repère bien des poteaux, hein, qui sont des structures verticales, et des poutres, qui sont des structures horizontales. Alors ici, je triche un peu, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une ossature, dans la mesure où on voit apparaître sur la façade des diagonales, qui font qu'en réalité, c'est plutôt des structures contreventées, et donc beaucoup plus raides que des structures en portique. Enfin, l'avantage de la photo, c'est qu'elle montre bien des systèmes de poteaux et de poutres. Alors, vous connaissez certainement ces ouvrages. Alors, je ne vais pas commenter la voûte du CNIT, qui est un bâtiment en particulier. Je vais plutôt attirer votre attention sur ce bâtiment, qui à l'époque était la tour Fiat. Aujourd'hui, c'est la tour Areva. Alors, cette tour-là est faite, contrairement à d'autres tours de la Défense, avec des murs périphériques en béton. Et donc, il s'agit d'une structure assez rigide, hein, malgré les ouvertures. C'est une boîte. Alors, des structures à voile ou avec des contreventements en palais. Alors, je vous en montre ici, après séisme, évidemment, le séisme a pas mal d'inconvénients. Ici, il a un avantage, c'est qu'il a un petit peu déshabillé le bâtiment, ce qui fait apparaître la structure. Alors, on voit que depuis le bas jusqu'en haut, à l'exception peut-être notable du premier niveau, eh bien, on a des croix, ce qu'on appelle des croix de Saint-André, qui travaillent en traction et en compression. Et qui vont donc permettre de résister à des efforts horizontaux. Hein, on voit ça jusqu'en haut. De la même façon, c'est autre immeuble. On voit qu'ici, on a une cage qui est probablement une cage d'escalier d'ascenseur, hein, sur laquelle on repère des diagonales. Voilà, donc ça, c'est des structures dites contreventées. Hein, sont des palets. Alors ici, c'est en béton. Bien souvent, on rencontre ce type d'agencement dans les structures métalliques. Alors, la méthode de vérification qu'on utilise, comme je vous l'ai dit, j'ai prononcé un mot qui est le mot de recode. Donc après une très très longue gestation, le système de normes de calcul des structures va passer pour l'ensemble des pays européens, et je dirais même pour l'ensemble des pays associés au CEN, sous le régime des eurocodes. Alors les eurocodes, génériquement il y en a 10, de 0 à 9. Le zéro présente les bases philosophiques de la conception des structures. Les autres traitent des différents types de matériaux. En réalité, ça recouvre 60 normes différentes, plus ou moins épaisses, évidemment, elles ne sont pas toutes pareilles. Et ça doit venir à l'usage des ingénieurs dans les années qui viennent, et ceci avant la fin de la décennie actuelle. Donc ça va faire un très très grand changement dans les habitudes des ingénieurs. Néanmoins, puisque j'ai parlé de philosophie, sur le plan philosophique, pour les ingénieurs français, ça ne devrait pas changer grand-chose, puisque les bases de calcul qu'on va utiliser étaient déjà utilisées en France depuis de nombreuses années. Alors cette méthode de conception et de dimensionnement est une méthode semi-probabiliste qu'on appelle la méthode des états limites. Alors, le principe consiste à définir des états limites qu'on ne veut pas dépasser. Alors, ils vont être de sorte assez différentes, je vais vous en montrer tout à l'heure. Et donc, on doit vérifier, par les moyens appropriés de calcul, qu'on ne va pas dépasser ces états limites. Alors, la vérification va toucher différents aspects de résistance, de stabilité, de fonctionnalité. Bon, la stabilité générale, bien sûr, ou la stabilité locale, la stabilité au feu, la résistance, évidemment, la résistance des éléments structuraux, la fonctionnalité. Alors la fonctionnalité au sens de l'ingénieur, là il ne s'agit pas de l'aspect architectural, mais il faut qu'une structure soit apte à remplir la fonction pour laquelle elle a été construite. Et notamment, on doit, par exemple, limiter les vibrations, les déformations, etc. Même si c'est acceptable du point de vue de la résistance, ça ne l'est pas généralement du point de vue de l'usage. Et donc, il y aura des vérifications à faire de ce point de vue. Et puis, un dernier objectif donc, qui est très clairement établi dans les Eurocodes, et cette fois-ci d'une façon extrêmement forte, c'est la durabilité. Ceci, évidemment, pour protéger le patrimoine sur le long terme. Donc voilà les types de vérifications qu'on peut faire. Alors les états limites qu'on considère, alors il y a des états limites qui sont parfaitement normalisés. Les plus usuels, c'est premièrement l'état limite ultime qui en fait concerne toutes les vérifications de sécurité de la structure, donc la stabilité, la résistance, etc. Et puis vous avez des vérifications qui sont plus liées à son usage, c'est ce qu'on appelle les états limites de service, où là, dans des circonstances données de service, eh bien on doit vérifier des choses qui sont relatives à l'usage, à la déformabilité, à l'étanchéité, par exemple, pour les piscines, etc. Alors, l'avantage des normes, c'est qu'elles permettent à un maître d'ouvrage qui veut construire un ouvrage particulier, avec des spécifications particulières, des objectifs particuliers, de pouvoir définir ses propres états limites. C'est relativement ouvert de ce point de vue-là. Évidemment, il faut associer à ces états limites des situations réelles que la structure est amenée à supporter, même si ces situations sont des situations prenant en compte des coefficients de sécurité. Et donc on peut faire ça, c'est tout à fait possible. Et alors à tel point qu'une des normes, qui est la norme qui traite de la réévaluation sismique des bâtiments existants, donc sur lesquels on ne peut pas penser vérifier de la même façon que pour un bâtiment neuf, eh bien des états limites spécifiques ont été construits. Un état, par exemple, qui est l'état limite de limitation de dommages, qui correspond d'une certaine façon à un état limite de service, mais là où on dit si un certain niveau de séisme arrive, eh bien on ne veut pas que ce soit trop endommagé, c'est-à-dire qu'on souhaite que l'ouvrage puisse être réparé et qu'on puisse continuer. Ou à l'autre extrémité, un état limite proche de l'effondrement, où là il s'agit de dire ben le séisme arrive, la vie des gens est protégée, mais ils sont évacués tout de suite après et le bâtiment est détruit. Voilà, donc évidemment, à ces états limites sont associées des situations de calcul que j'essaye de décrire dans ce petit diagramme qui n'est pas très simple, mais je vais quand même essayer d'en dire quelques mots. Donc la donnée initiale est constituée par les quatre cases du haut. D'une part, on a une certaine durée de vie de projet. Alors, en général, pour les bâtiments, on vise de l'ordre de 50 ans. Pour les ouvrages d'art, on vise beaucoup plus longtemps. On va avoir des actions auxquelles va être soumise la structure. Et puis la structure elle-même, elle va être définie par une certaine géométrie et puis des matériaux. Donc usuellement, c'est le béton, l'acier, le mixte, la maçonnerie, le bois, etc. Mais ce sont des matériaux qui sont normalisés, c'est-à-dire qu'il existe des normes pour les calculer. Alors on va considérer des situations de projet. Et pour ces situations de projet, on va examiner des modes de défaillance de la structure. Alors, je vous en montrerai tout à l'heure. Alors vis-à-vis de ces modes de défaillance, eh bien, on établira des états limites donc qui correspondent à ces modes de défaillance. Et pour ces états limites, eh bien, on construira des combinaisons d'actions pour lesquelles les vérifications vont être faites. Alors la géométrie de la structure et ses combinaisons d'actions permettent de faire un calcul de la structure. Donc un calcul de la structure qui peut être statique, dynamique. Je vous montrerai des exemples pour lesquels on va déterminer des effets de calcul, alors qui peuvent être très divers. Ça peut être des déplacements, des déformations, des contraintes, des moments fléchissants, etc. C'est tout ce qui peut intéresser l'ingénieur dans la vérification de l'ouvrage. Alors ces effets de calcul ED, je vais les mettre à gauche ici d'une inéquation que je vais expliquer. Alors d'autre part, à partir de la géométrie des matériaux utiliser de la connaissance de leurs propriétés mécaniques et donc des résistances de calcul que je vais appeler RD, je vais construire en face des effets que je vais considérer des résistantes correspondantes Et le but du jeu, eh bien, c'est de démontrer que les effets, tous les effets qu'on va considérer, restent inférieurs aux résistances correspondantes. Donc ça peut être, par exemple, alors ça peut très bien être un déplacement, hein, on peut très bien dire, ben, on ne veut pas qu'un déplacement soit supérieur à 5 cm, par exemple, eh bien, il faudra que D soit inférieur à 5 cm. Mais ça peut être un moment fléchissant, un effet normal, une contrainte de façon générale. Voilà. Alors, la vérification de fiabilité, en fait, est faite à travers un certain nombre de coefficients de sécurité qui vont apparaître dans cette méthode de vérification. Alors, pour le terme de gauche, ici, donc, je vous rappelle, ce sont les effets. On va donc considérer des actions que j'appelle FK, qui sont en nombre fini malgré tout, mais enfin qui peuvent être assez nombreuses. Alors là-dedans, il y a des charges permanentes, des effets thermiques, du vent, de la neige, du séisme, des actions accidentelles, etc. Et ces actions vont être combinées par des facteurs de combinaison qui représentent en fait qui permettent de déterminer la présence probable simultanée des différentes actions qu'on considère. Alors on va considérer évidemment les dimensions de l'ouvrage et puis un coefficient de sécurité gamma F qui lui va apparaître en fait sur l'ensemble de ces données. À partir d'un calcul de structure, on va déterminer des effets et pour faire bonne mesure, eh bien, on rajoutera derrière un coefficient partiel, hein, qui représentera la sécurité de l'ouvrage. Alors pour le terme de droite, eh bien, on va partir des propriétés mécaniques des matériaux qu'on divisera par un coefficient de sécurité. On prendra en compte les dimensions. Bon, un coefficient ici qui est un coefficient physique dont je ne parle pas, et par le même procédé, on déterminera les résistances en prenant en compte un coefficient de sécurité. Alors évidemment, ce que je dis ici est très synthétique. Dans la pratique, les normes donnent l'exacte définition de ces combinaisons. Alors, la première fonction des structures, c'est le portage, c'est-à-dire descendre les actions verticales dues à la pesanteur qui agissent évidemment sur le poids des structures elles-mêmes, mais également sur les surcharges qu'on peut mettre à l'intérieur du bâtiment, hein, du point d'application de ces structures, de ces charges jusqu'au niveau de fondation. Alors voilà un beau bâtiment. Donc là-dedans, vous avez des planchers qui vont prendre les charges verticales et les reporter sur des structures porteuses, qui sont des poteaux, des murs, etc. Il peut arriver qu'il y ait un plancher de reprise au niveau duquel les structures verticales vont changer de géométrie. Et puis, en dessous, on peut avoir des infrastructures, par exemple des parkings, et puis après, il y a des fondations qui peuvent être superficielles ou profondes. Alors, les charges qui sont appliquées au niveau des planchers sont donc reportées sur les structures verticales. Hein. Éventuellement, s'il y a des planchers de reprise, eh bien, c'est reporté d'une structure porteuse vers une autre, à travers ce plancher de reprise, qui donc, en général, est assez costaud. Et puis, les charges, progressivement, vont descendre jusqu'en fondation, pour atteindre un niveau de fondation qui peut résister en fait aux charges qu'ils vont subir. Alors voilà un bâtiment fort connu de Londres, où là l'architecte a bien montré la verticalité. Hein, on voit que tout est fait pour que ça paraisse très très vertical. Vous pouvez simplement noter à ce niveau, vous voyez, un plancher de reprise où les charges sont au moins en partie reporté de la périphérie vers le centre, vers le noyau central. Je vais passer une minute sur ce bel ouvrage que vous connaissez, hein, l'Arche de la Défense. Alors, voilà l'ouvrage en cours de construction, mais ici la construction était presque terminée. On voit les cages d'ascenseurs qui sont posées et on voit l'échafaudage qui va permettre de poser les nuages. Alors, c'est un grand cube ouvert, ses dimensions, disons, c'est de l'ordre de 110 mètres au cube. Alors, si on regarde comment c'est fait, en réalité, c'est assez simple. Hein, l'ensemble de l'ouvrage repose sur des piles qui sont disposées au milieu des... Enfin, parmi les l'encombrement du sous-sol, hein, il y a notamment des voies de chemin de fer là, qui passent dessous. Et l'ensemble de la structure est en fait flottante sur ces piles. C'est-à-dire qu'entre les piles et les structures, eh bien, vous avez des appuis en élastomère frété, hein, qui sont des appuis de type pont, et qui permettent donc qui sont assez souples dans le plan horizontal et qui permettent donc à l'ouvrage de respirer. Alors l'ouvrage lui-même, eh bien, il est constitué de quatre grands cadres, c'est ce qu'on appelle des mégastructures, hein, qui font tout le tour là, et qui en fait apportent la résistance. Alors ces quatre cadres-là, sont joints par des planchers plus importants que les autres, hein, aussi bien dans les tours que dans les plateaux. Hein, et donc vous voyez que c'est un ensemble de structures finalement en nombre assez limité, mais évidemment ce sont des structures de dimensions très imposantes, puisque la hauteur, par exemple dans les plateaux, est de l'ordre de 9 mètres. Alors, à ce stade, je voudrais insister sur le fait qu'un ouvrage tel que celui-ci, il est construit par des entreprises, et que le mode de construction influe évidemment beaucoup sur la conception de la structure. Alors, pour cette structure-là, un problème s'était posé, c'est comment construire le plateau supérieur. C'est pas du tout évident d'aller construire une surface pareille, avec un poids pareil, à 100 mètres de hauteur. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été imaginées par les ingénieurs. Une consistait à construire le plateau inférieur, tout au moins une partie, plateau supérieur sur le plateau inférieur, et ensuite à le lever. La solution qui a été trouvée par, qui a été proposée et mise en place par l'entreprise adjudicataire, eh bien, consistait simplement à positionner des tours de grue en milieu de travée, à mettre des cintres, donc qui sont des coffrages autoportants, appuyés donc sur ces montants et sur les bords, et puis à construire tout simplement, comme on le voit au premier plan ici, les poutres une par une, et ensuite eh bien, à compléter le plateau au fur et à mesure. Vous notez au passage que pour assurer la stabilité en face provisoire, hein, des bielles, des butons ici, assez importants, assez conséquents, ont été mis en place. Alors pour construire un ouvrage comme ça, on fait évidemment à la fin des calculs extrêmement détaillés, hein, extrêmement précis, mais on n'en a pas besoin de ces calculs précis à tous les stages de la conception. Et on peut imaginer de faire un calcul de structure, par exemple, constitué de poutres s'appuyant sur ce squelette, tel que je vous l'ai montré, mais on peut très bien, dans un stade tout à fait préliminaire, examiner les différentes phases de la construction, simplement avec des systèmes de poutres, extrêmement simples et plans, hein, et ça, donc ces différents stades peuvent s'étudier à la main, et de cette façon-là, eh bien, on a l'essentiel en fait du comportement. Alors évidemment, c'est pas très précis, il faut aller beaucoup plus loin, mais dans une phase de prédimensionnement, ça peut être largement suffisant. Alors j'insiste beaucoup sur le fait que on doit construire des modèles de calcul en fonction des objectifs qu'on se fixe et en fonction du stade de conception, hein, auquel on se situe. Alors voilà un autre ouvrage qui n'est pas encore construit, qui est en cours de qui est sorti de l'esprit des architectes, qui sera peut-être construit si les budgets sont là. C'est un musée à Lyon. Alors il est constitué d'une infrastructure qui est relativement classique, mais d'un nuage que vous voyez dans la partie haute. Alors ce nuage, eh bien, c'est une structure qui est complètement enveloppée de métal, hein, d'une couverture métallique. Hein, et qui est, on peut dire, suspendu, d'ailleurs ça s'appelle un nuage, hein, suspendu donc au-dessus des infrastructures. Alors il y a très peu de points d'appui. Alors là on voit l'ouvrage de l'autre côté avec cet immense diamant là, qui est une structure couverte de verre. Alors quand on regarde l'intérieur, quand on regarde le squelette, eh bien on s'aperçoit qu'ici la fonction de portage, c'est une fonction qui est très horizontale, hein, puisque on ne voit pas les planchers qui n'ont pas été montrés, mais les charges sont appliquées sur les planchers et reportées sur des murs en béton, hein, qui en fait vont travailler comme des poutres horizontales et reporter les différentes charges sur les quelques appuis verticaux, hein, qui permettent de descendre tout ça jusqu'aux fondations. Alors ceci, c'est un modèle de calcul, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'est pas complet, hein, il est en cours d'élaboration. Tous les éléments qui composent le modèle ne sont évidemment pas montrés, ce serait pas lisible, mais on voit très bien que le modèle de calcul retranscrit très exactement, hein, ce que montre la maquette. Alors on aperçoit les trois cages d'escalier qui permettent de descendre les charges verticales, plus quelques poteaux qui complètent la descente de charge. Voilà un autre ouvrage, c'est le Trade Center d'Abu Dhabi. Alors, c'est un ouvrage qui est assez important, pas forcément en hauteur, mais surtout dans ses volumes généraux. Et surtout, il est multifonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans des bureaux, un hôtel, etc. Au niveau qu'on voit ici, qui est très, très, très grand, en fait, en volume, c'est un centre commercial. Et en dessous, eh bien, il y a plusieurs niveaux de parking. Donc, c'est un très grand ouvrage, et surtout qui comprend des structures extrêmement élancées, avec des portées très grandes, en béton précontraint. hein, qui font plus penser finalement à un ouvrage d'art qu'un bâtiment. Alors ce que je vous montre ici, c'est pas du tout une vue d'architecte, une maquette ou quoi que ce soit, c'est le modèle de calcul. Hein, donc on voit là-dedans, alors c'est une vue pas très détaillée puisqu'on ne voit pas la totalité des éléments, hein, on voit simplement une vue épurée des éléments de la structure, mais on voit qu'ici, dans un stade ultime de vérification, eh bien, on utilise des modèles de calcul extrêmement sophistiqués et complexes. Alors cette fonction de portage, comme je viens de vous le montrer, n'est pas nécessairement verticale. Elle est verticale, elle est parfois horizontale, comme on peut le voir ici sur cet ouvrage que certains d'entre vous connaissent certainement, hein, avec cette forme qui est tout à fait agréable, mais qui implique que des poteaux des structures ne sont pas tout à fait verticales, et donc sous l'effet des charges verticales, eh bien, nécessairement, pour assurer l'équilibre, on doit également compter sur la résistance en traction des planchers pour que les charges soient descendues jusqu'au sol. Voilà un autre type de portage assez original. C'est à Londres, hein, au-dessus de voies de chemin de fer, où là, l'architecte a choisi de montrer une structure porteuse qui est un arc, donc qui porte d'un bout à l'autre de l'immeuble. Et les structures verticales que vous voyez ici sont soit en traction pour porter vers l'arc les charges si c'est situé en dessous de l'arc, soit au contraire en compression pour les planchers qui sont situés au-dessus de l'arc. Alors pour terminer sur cette fonction de portage, on peut se poser une question, est-ce qu'il y a une limitation dans la hauteur des bâtiments qu'on peut construire? Alors je prends un bâtiment, je suppose qu'il y a un certain pourcentage de vide à l'intérieur. Bon, le reste, c'est-à-dire un moins V, eh bien, c'est les structures. Et je vais supposer que j'ai à peu près le même pourcentage d'appui au niveau du sol. Bon, c'est une hypothèse simplificatrice, mais qui est acceptable. Et je vais dire donc que les contraintes, c'est-à-dire la pression, si vous voulez, exercée sur le sol, tout au moins en bas des structures, avant d'arriver sur le sol, eh bien, est limitée par une certaine contrainte admissible dans le matériau. Alors en fait, on s'aperçoit que ce qui compte, c'est surtout le poids propre. Les termes de surcharge, en réalité, n'ont pas beaucoup d'importance. Et donc ce qui compte, c'est la résistance d'une colonne de matériaux, grosso modo. Et c'est notamment le cas si on fait l'exercice avec du béton. Hein, j'ai mis ici des valeurs qui sont des valeurs d'un béton qui serait un béton normal, hein, avec une résistance qui n'est pas extrêmement élevée, mais qui correspond à ce qu'on sait faire en béton. Et bien là, si on applique cette formule, et bien on voit qu'on pourrait aller jusqu'à 500 mètres. Alors si je prends la règle de la colonne, eh bien en béton, avec un meilleur béton, on pourrait peut-être aller jusqu'à 2000 mètres. Et si on prend de l'acier, eh bien on pourrait certainement aller beaucoup plus haut, à ceci près que pour une structure en acier, comme on ne sait pas encore couler l'acier directement dans les coffrages, que ce sont des profilés qui sortent de l'acier d'érurgie. Donc la règle que j'ai mise ici s'applique probablement plus, hein, et probablement qu'on n'arriverait pas à atteindre de telle hauteur. Mais enfin, on voit quand même qu'on a encore de la marge. Alors bien évidemment, ça, c'est pas suffisant, c'est uniquement les charges verticales. Il faudra considérer les fondations, il faut que le sol puisse porter les charges. Et puis, il faudra aussi considérer la stabilité locale des ouvrages, des éléments structuraux. Alors, je vous montre la tour Eiffel, simplement pour vous rappeler que déjà au 19e siècle, on savait construire des ouvrages de 300 mètres de haut. Hein. Et vous remarquez que la forme n'est pas du tout la forme d'une colonne de matériaux verticale. Hein, vous avez une forme évasée, et la raison, eh bien, c'est qu'il faut assurer une deuxième fonction, qui est la fonction de contreventement. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, comme je l'ai dit, on va porter des charges verticales, mais la structure peut être amenée à subir des charges horizontales, par exemple un séisme ou le vent. D'accord? Et évidemment, il faut résister à ces charges horizontales. Donc globalement, la structure va avoir des charges verticales, disons grosso modo liées aux charges permanentes, et puis des charges horizontales qui sont variables, elles, hein, elles sont dues soit au vent, soit au séisme. Alors, vous voyez bien qu'effectivement, un séisme, ça apporte des actions horizontales, hein, on voit des ruptures ici. C'est une maquette de bâtiment en mur en béton qui a été essayée sur la table vibrante du CEA à Saclay. Hein, bon, je pense que vous avez vu au cours du mouvement qu'effectivement, il y a une très forte sollicitation horizontale. Donc comment va-t-on résister à ça? Alors, déjà, on va, dans la structure, faire une distinction entre des éléments qui sont dits primaires et qui vont assurer une fonction de contreventement, et des éléments qui sont dits secondaires, qui, eux, vont suivre, en fait, sous l'effet des efforts horizontaux, mais qui vont assurer une fonction de portage. Donc, ces éléments secondaires font partie de la structure, mais ils ne jouent pas du tout le même rôle. Alors, il ne suffit pas, évidemment, d'assurer la résistance des éléments de contreventement. Vous voyez ce bâtiment ici, ne sert plus à grand-chose, malheureusement, bien que sa structure de contreventement est tenue. Même chose ici, les cages d'escalier qui sont là assuraient le contreventement du bâtiment. Bon, évidemment, c'est une très mauvaise conception, mais il est bien évident que c'est un échec. Donc, il ne suffit pas d'assurer la résistance des structures. Alors, quel contreventement on peut avoir? Alors là, je vous ai mis des contreventements usuels en métal. Donc, on reconnaît des portiques qui vont travailler en flexion, hein, de ce type. On va avoir des systèmes contreventés avec des diagonales, type croix de Saint-André, comme ici, hein, ou voilà un autre type, ou encore un autre type, des structures en K. Alors, ces structures-là sont acceptables pour le vent, elles ne le sont guère pour le séisme, pour des raisons de stabilité dont je parlerai un peu tout à l'heure. Alors, juste un tout petit calcul. Voilà un bâtiment avec trois éléments de contreventement. Il est géométriquement à peu près symétrique, sauf que les contreventements sont différents, comme vous le voyez. Alors, je fais un tout petit calcul en supposant que j'ai juste une terrasse très rigide et que les contreventements, eh bien, ce sont des éléments élastiques auxquels j'ai donné, vous voyez, trois raideurs différentes. Alors ça, je paramètre avec un déplacement d'ensemble, donc dans le sens de la force, et puis une rotation. Alors j'écris simplement les équations d'équilibre. Pour les mécaniciens, théorème de la résultante et théorème du moment résultant. Et puis j'en tire, vous voyez, les équations sont simples, elles sont linéaires ici. Hein, et je trouve donc un déplacement, donc dans le sens de la force, et puis une rotation d'ensemble. Donc une flexion générale du bâtiment, dans le sens de la force, et une torsion. Alors ce petit exemple, il est simplement là pour montrer que le comportement d'ensemble dépend de la répartition des raideurs et des masses également dans la structure. Et on le verra tout à l'heure en matière de séisme, la torsion joue un rôle extrêmement maléfique dont il faut se prémunir. Alors les modèles de calcul qu'on utilise pour le contreventement sont très divers. Alors vous avez par exemple ce qu'on appelle un modèle brochette. Ça consiste à mettre des poutres verticales représentant la souplesse des différents niveaux au niveau des centres de flexion. Et puis à chaque plancher, de positionner au droit du centre de gravité les masses de chaque niveau, hein, et en reliant tout ça par des barres suffisamment raides pour ne pas perturber le calcul. Alors ces modèles, bon là je l'ai dessiné dans le plan, mais c'est des modèles qu'on utilise en l'espace. Ils ont l'avantage d'être assez simples en exploitation, hein, on comprend bien ce qu'on fait, mais ils sont relativement difficiles à construire d'une certaine façon. Alors, ils sont également valables pour les éléments raides, hein, c'est-à-dire de type voile ou palais se comportant verticalement comme des poutres. Alors, pour les éléments qui sont des ossatures, eh bien, on utilise des systèmes poteaux-poutres, hein, dans le calcul comme dans la réalité, alors qui peuvent être plans, comme c'est le cas ici, mais qui peuvent très bien être tridimensionnels. Alors, maintenant, quand on veut faire des calculs extrêmement précis, eh bien, on va faire des modèles de calcul tels que celui-ci. Alors ça, c'est un modèle de calcul. Vous voyez, l'ouvrage n'est pas très haut, mais il est grand. Hein. Et ce modèle-là est un modèle aux éléments finis, hein, qui permet d'apprécier la réponse sismique de cet ouvrage, qui est un centre commercial, vous voyez, avec des tours. Alors la modélisation n'est pas extrêmement fine, hein, ce sont des éléments finis d'assez grande longueur, mais le but ici n'est pas de faire un calcul de résistance locale, mais d'avoir une idée du comportement d'ensemble. Vous voyez qu'on arrive déjà à des modèles de calcul assez importants. Alors pour la résistance au vent, bah on a évidemment à considérer des actions quasi statiques qui correspondent à la poussée, à la pression du vent sur les façades, mais on a parfois également à considérer des effets dynamiques, hein, et notamment les effets des tourbillons de von Karman, hein, qui sont des tourbillons qui, pour certaines vitesses de vent, se détachent avec certaines fréquences, hein, autour des profils d'obstacles. Alors, on sait calculer, hein, à partir du nombre de stroales du profilé, les fréquences de ces tourbillons en fonction du type de profil et de la vitesse. Alors, On peut, si on veut, un des moyens, c'est de calculer et puis de s'en tenir là, on peut mettre en place des systèmes passifs en ajoutant, par exemple, ici, un pendule, c'est-à-dire une barre et une masse à l'intérieur. Hein, il suffit d'avoir une cage, on peut faire ça, c'est pas très compliqué. Donc, ce qui correspond, en fait, ce qui revient à mettre ici un oscillateur simple avec une raideur et une masse, donc que je viens ajouter sur le bâtiment. Alors ici, le bâtiment, je le représente par son premier mode de vibration. Hein, et comme j'aime faire des choses simples, ben, vous voyez, j'ai mis un ressort et une masse, c'est pareil qu'un mode de vibration. Alors, j'écris les équations du mouvement. X, ici, c'est le déplacement de la grande masse, c'est-à-dire du bâtiment. Et Y, c'est le déplacement de la petite masse, c'est-à-dire c'est l'angle ici de rotation du pendule, si on veut. Donc voilà les équations qu'on sait résoudre. Bon, il faut faire un petit effort de calcul, mais c'est pas bien compliqué. Et donc, si j'écris maintenant, puisque j'ai mis une sollicitation harmonique avec une fréquence grand oméga, qui est donc la fréquence des tourbillons de Van Karman, eh bien, je peux donc exprimer le coefficient petit a qui correspond à l'amplification dynamique du bâtiment soumis à ces tourbillons. Alors en bleu, on a le système sans l'adjonction du pendule. Hein, c'est une courbe de résonance bien connue. Hein, ici, on a une fréquence de résonance. Bon, c'est pas tout à fait vertical, mais ça, c'est simplement lié au calcul. Hein, en fait, c'est au pas de calcul. En fait, c'est vertical. Donc on sait qu'on a une résonance sur cette fréquence, c'est-à-dire que si le premier mode de la structure est égal à la fréquence des tourbillons de Von Karman, eh bien, il y a cette fois-ci grand danger pour la structure, hein, qui peut être soumis à des amplifications extrêmement importantes. Alors, en violet, en parme, ici, on retrouve le cas de la structure avec le pendule. Cette fois-ci, on fait apparaître deux résonances qui correspondent grosso modo à la fréquence de chacun des constituants, c'est-à-dire le bâtiment et le système additionnel. Mais on voit que dans toute cette zone ici, d'abord ici on fait apparaître un point d'antirésonance, c'est-à-dire que si le pendule a une fréquence qui est calée pour ce point-là, eh bien le bâtiment ne bouge plus. C'est-à-dire que son mouvement est éteint dynamiquement, sans amortissement, hein, par un phénomène purement d'adjonction de masse. On voit que dans toute cette zone, en fait, hein, la réponse dynamique est beaucoup plus faible que dans le cas sans pendule. Alors ça conduit, alors ce que je montre là est très simple, hein, mais ces principes-là permettent de mettre en œuvre des systèmes dynamiques, donc soit actifs si on apporte de l'énergie, soit passifs comme celui que je viens de montrer, hein, et qui permettent donc de contrebalancer les effets dynamiques. Si on ajoute de l'amortissement, c'est encore mieux, puisqu'on ira manger une partie de l'énergie dans les amortisseurs. Alors ce type de choses, on l'utilise également pour le séisme, hein, et j'y viens tout de suite à la conception parasismique. Alors d'abord un petit mot sur ce qu'est le séisme. Bon, c'est un mouvement, on l'a vu tout à l'heure sur la table vibrante, hein, qui va solliciter la structure en pied. Alors ça se présente sous une forme d'accélérogramme qui est due à la propagation des ondes sismiques jusqu'à la construction. Et on peut faire une modélisation très simple d'une structure, voilà, un oscillateur simple avec un ressort, une masse, un amortisseur, et on va soumettre donc cet amortisseur simple à un déplacement d'appui x de t avec cette accélération. Et je vais chercher la déformation du bâtiment. La déformation, c'est le mouvement relatif de la masse dans le mouvement entraîné par le séisme. Alors on sait résoudre ça, hein, vous voyez la solution sous forme d'intégrale. Ici, il y a des caractéristiques du système, donc je ne vais pas développer ça. Simplement, un ingénieur ne s'intéressera pas forcément à ce qui se passe autour du temps. Il va s'intéresser plutôt à la réponse maximale, donc au déplacement relatif maximal qui sera obtenu à un instant donné, peu importe. Mais ce qu'on constate, c'est que ce déplacement maximal, donc cette déformation de la structure, dépend en fait de sa fréquence ou de sa période, comme vous voulez. D'accord ? Donc là, vous avez ici un spectre de réponse en déplacement, hein, d'un oscillateur simple. Alors, si l'oscillateur est très raide, hein, imaginez, vous mettez un pavé sur le sol, bah, il est clair que le pavé va se déplacer comme le sol. En fait, il ne va pas se déformer. Et donc, quand on a une période nulle, c'est-à-dire une structure très raide, eh bien, le déplacement est nul. À l'inverse, si le bâtiment est très souple, hein, c'est-à-dire la masse est d'une certaine façon suspendue, ben le sol va bouger dessous, hein, et ce qui veut dire que le déplacement relatif du bâtiment, enfin de la masse par rapport au sol, est inverse au déplacement du sol, puisque le déplacement total est nul. Et donc, il est logique que quand T tend vers l'infini, donc pour des systèmes très souples, eh bien, le déplacement relatif devienne égal au déplacement du sol. Bon, au passage, je note qu'on connaît ça. On sait mesurer les déplacements du sol, et donc les déplacements de la structure, si elle tient, sont des valeurs qui sont limitées. Ce n'est pas infini. Alors ça devient évidemment très grand quand la structure se casse, mais tant qu'elle est stable, tant qu'elle résiste, eh bien, on a des déplacements qui sont tout à fait raisonnables. Alors par contre, on constate que dans toute cette zone de fréquence, avec des périodes qui, disons, grosso modo, varient entre 0,1 seconde et 1 seconde, eh bien, on a une amplification par rapport au déplacement du sol. Alors généralement, on utilise plutôt des spectres d'accélération. C'est-à-dire plutôt que travailler en déplacement, on travaille en accélération, tout simplement pour calculer les forces dans la structure. Newton, F égale M gamma. Gamma, c'est l'accélération, donc on travaille avec les accélérations. Hein, c'est plus pratique. Et voilà des spectres d'accélération. Alors toujours pareil, hein, quand la structure est très raide, T égale 0, bah, l'accélération, c'est l'accélération du sol. Et puis, par contre, si la structure est très très souple, eh bien, elle ne sent pas du tout les mouvements du sol, et donc son accélération tend vers zéro, hein, quand T tend vers zéro. On peut noter aussi que si on améliore l'amortissement, hein, si on rajoute des systèmes amortisseurs, eh bien, évidemment, l'accélération est plus faible, hein, et donc c'est évidemment un effet très favorable. Alors, comme tout à l'heure, on va noter que l'accélération que subit la structure, c'est-à-dire la masse qui est suspendue, eh bien, est amplifiée par la réponse dynamique du système, du bâtiment, hein, dans des gammes de fréquences qui sont justement les gammes de les fréquences dans lesquelles on construit. Hein, alors je parle de fréquences, ici c'est en période, mais c'est l'inverse, c'est pareil. Hein, donc c'est disons entre 0,1 et 1 seconde qu'on a ce phénomène d'amplification. Et c'est bien ça qui rend dangereux les séismes, hein, puisqu'on est très exactement dans le domaine de la construction. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'à San Francisco, par exemple, ces beaux bâtiments qui sont quand même assez élevés, aient subi des séismes et qu'il ne se soit rien passé? Ben, c'est parce qu'évidemment, il y avait des ingénieurs qui s'en sont un petit peu occupés. Alors pour ça, vous avez deux méthodes. Enfin, vous en avez plusieurs, mais là, je vais vous en montrer deux. La première, c'est l'isolation à la base. Alors voilà un bâtiment, bon, qui repose sur le sol, normalement, que je vais représenter avec deux modes propres. Donc je vais mettre deux masses de ressort. Bon, voilà, avec des valeurs ici qui sont sorties de mon imagination, mais raisonnables. Et puis je vais comparer un système isolé où j'ai interposé ici entre la superstructure, c'est-à-dire le bâtiment lui-même et sa fondation, un système d'isolation. Alors ce système d'isolation, c'est un système qui est très souple en horizontal, hein, donc qui permet des débattements relativement importants, et puis qui par contre est assez raide en vertical généralement. D'accord ? Alors je vais interposer sur mon modèle de calcul ici un ressort très très souple, hein, si vous comparez les raideurs. Vous voyez que c'est beaucoup plus faible. Hein, et puis je vais regarder ce que ça donne. Eh bien, voilà un spectre d'accélération. Donc pour le bâtiment non isolé, eh bien, je vais avoir un premier mode de vibration qui représente une flexion généralisée et qui va donc me donner des modes qui sont là, les deux points, enfin qui ont des périodes donc correspondant aux deux points indiqués sur la figure. Hein, donc vous voyez 0,25 secondes pour le premier mode, avec donc un déplacement, dans mon calcul, ça m'a donné 4,6 mm, et surtout une résultante des actions horizontales en pied, ce qu'on appelle l'effort tranchant à la base, qui vaut 4,7 méganewtons. Alors si maintenant je considère le même problème, mais avec un bâtiment isolé, hein, celui que je vous ai montré, eh bien on constate un certain nombre de différences. D'abord, le premier mode, vous voyez, est passé de 0,25 secondes à 1,52 secondes, et on est beaucoup plus loin sur le spectre. Et donc l'accélération que subit la structure est beaucoup plus faible que dans le cas non isolé. Bon, le deuxième mode est lui quasiment inchangé. Et l'autre modification, enfin les autres modifications, comme vous voyez, c'est la forme du déplacement. C'est-à-dire que cette fois-ci, comme toute la souplesse est concentrée en pied de la structure, eh bien le bâtiment lui-même va se translater comme ça, hein, d'une façon rigide, et donc ne va pas subir d'amplification en fonction de la hauteur. Alors le résultat de tout ça, eh bien, c'est que vous voyez Les forces en présence sont beaucoup plus faibles. Hein. Vous voyez que la somme ici est beaucoup plus faible. Hein. C'est quasiment divisé par 5. Mais par contre, évidemment, il faut autoriser le déplacement. Donc tout ça, ça va se débattre beaucoup plus largement. Alors voilà des systèmes d'isolation. Bon, ça, c'est un système classique d'élastomère frété. Hein, on voit que ça se déforme pas mal en horizontal. Bon, vous avez des systèmes de ressorts aussi avec un couplage avec des amortisseurs, ça peut que faire du bien. On a d'autres types de l'imagination est au pouvoir. Voilà un système en fait pendulaire, c'est-à-dire vous voyez c'est un tenon qui vient se mouvoir dans une surface sphérique et donc en réalité quand le système tend à s'écarter par rapport à sa position d'équilibre central, eh bien ça fonctionne comme un pendule, c'est-à-dire que l'ensemble du bâtiment va se lever et donc simplement par effet gravitaire, eh bien on va avoir un ressort qui est un ressort un rappel rappel pendulaire. La deuxième méthode de conception consiste à faire appel à la ductilité des matériaux et des éléments structuraux. Alors si on prend une éprouvette en métal, par exemple, hein, vous prenez un morceau de métal, vous le mettez à la presse, vous tirez dessus et vous lui faites subir des cycles de déformation, eh bien on s'aperçoit qu'on obtient des cycles stables, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, hein, ils se ressemblent à eux-mêmes. Alors pourvu qu'on n'aille pas détériorer le matériau, hein, ça reste des cycles assez intéressants. Alors ce qu'on constate aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on augmente la déformation maximale, les cycles s'ouvrent. Alors il faut savoir que, on démontre évidemment assez facilement, que l'air qui est à l'intérieur des cycles correspond en fait à de l'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur, simplement par plastification du matériau. D'accord ? Alors comme on cherche à dissiper de l'énergie, hein, eh bien évidemment c'est très favorable. Alors un matériau tel que l'acier a un comportement de ce type, encore une fois, quand on ne le détériore pas. Par contre, vous avez d'autres matériaux qui ont des comportements un peu différents. Alors si je considère par exemple une poutre en béton armé en flexion, hein, eh bien on constatera au fur et à mesure des cycles que le système s'assouplit. Tout simplement parce que le béton armé, ça se fissure, ce qui est normal, c'est son mode de fonctionnement normal. Hein, et donc, comme il se fissure, eh bien, il perd un peu de sa rigidité au fur et à mesure des cycles. Par contre, on voit que la résistance est à peu près maintenue, puisque la résistance d'une poutre en béton armé est déterminée par les armatures métalliques. Et donc, finalement, le comportement n'est pas si mauvais que ça, sauf qu'il faut prendre en compte cet assouplissement dont je viens de parler. Alors, vous avez d'autres matériaux qui se comportent beaucoup moins bien. Hein, c'est-à-dire qu'au cours des cycles, ils perdent à la fois de la rigidité et de la résistance. Et évidemment, ça, c'est pas bon. Parce que, comme on va avoir un certain nombre de cycles au cours du mouvement sismique, eh bien, il est clair que la situation du matériau se détériore, hein, et qu'au bout du compte, on peut engendrer un effondrement. Donc, tout le but de la conception parasismique consiste à obtenir des comportements qui sont des comportements stables, au moins au niveau de la résistance. Alors si je prends une loi de comportement, c'est-à-dire si je prends une barre et que je tire, hein, bon, en général, dans un premier temps, on a un comportement linéaire, c'est-à-dire que la force qui permet de déformer la barre est proportionnelle au déplacement. Par contre, en réalité, on obtient toujours une limite, hein, qui correspond à ce qu'on appelle un palier plastique, c'est-à-dire une force que l'éprouvette ne peut pas dépasser, ne peut pas résister au-delà. Alors, ce qui va se passer, en fait, enfin, ce qu'on considère, ce qu'on peut démontrer par le calcul, c'est qu'au cours des cycles, eh bien, si le cycle est stable, on va obtenir ici, donc ça va redescendre là, mais on va obtenir ici un déplacement maximal qui est, disons, de l'ordre de grandeur, qui est à peu près égal à ce qu'obtiendrait une structure qui reste indéfiniment élastique. D'accord ? Donc ce que je vais faire dans la conception, c'est que je vais faire un calcul élastique, et puis je vais diviser les forces que je trouve par un certain coefficient qu'on appelle coefficient de comportement, d'accord ? Et évidemment, sous une certaine limite, eh bien, je considérerai que les déplacements atteints par cette structure élastoplastique, eh bien, sont les mêmes à peu près que ceux de la structure élastique, d'accord ? Alors ça, ça a une limite parce que si je augmente le coefficient de comportement, je vais évidemment diminuer les actions prises en compte. Mais par contre, je vais me balader de plus en plus loin ici, et il y a un moment quand même où ça se rompt. C'est-à-dire, il y a un déplacement ultime que la structure ne peut pas, ou que l'élément structurel ne peut pas dépasser. Alors, ce coefficient de comportement qu'on utilise dans les calculs, eh bien, en fait, il dépend du type d'élément, donc une poutre, un mur, etc. Il dépend du matériau, il dépend du type de structure, et il dépend de la régularité de la structure. Il dépend de pas mal de choses. Et pour arriver à mettre en place un certain niveau de coefficient de comportement, eh bien, il faut qu'on mette en jeu des dispositifs qui permettent d'assurer la ductilité de la structure, c'est-à-dire le fait qu'elle ait un comportement stable au cours du mouvement. Alors ça se fait par le biais de dispositions constructives particulières qu'on retrouve dans toutes les normes. Alors simplement quelques valeurs rapides du coefficient de comportement qu'on trouve donc dans le projet d'Eurocoduit, qui est donc le calcul des structures pour la résistance au séisme. Donc voilà, vous voyez que ces coefficients, bon, pour différents types d'éléments, ne sont quand même pas tout à fait négligeables, ce qui veut dire qu'on va rentrer très très largement dans le domaine post-élastique. Alors, on ne va pas se contenter de calcul, on va faire de la conception. Il y a plusieurs aspects. Alors d'abord, il faut essayer de maîtriser la stabilité d'ensemble, les comportements d'ensemble. Il va falloir essayer de maîtriser les comportements particuliers, notamment des niveaux particuliers, je vais vous montrer des photos. Et puis, il va falloir s'intéresser à ce qui se passe localement, donc soit au niveau de la résistance des éléments, soit au niveau de la stabilité locale. Et je montre quelques photos simplement pour expliciter ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est une photo qui a été prise après le séisme de Kobe, donc problème de stabilité générale. Voilà, un autre problème de stabilité générale. Je dois dire quand même qu'on ne peut pas en fait renverser un bâtiment tel que vous voyez ici. C'est-à-dire que cette perte de stabilité est quelque part associée à une rupture au niveau inférieur de la structure. Donc ce n'est pas vraiment une perte de stabilité, mais enfin il faut quand même se préoccuper de la stabilité. Alors voilà des comportements d'ensemble qu'on veut éviter. Ici il s'agit d'un mouvement, d'un mauvais comportement dynamique d'ensemble qui a induit de la torsion, et on voit que eh bien, on a une dissymétrie, un dysfonctionnement du comportement qui fait que uniquement certaines parties de la structure se sont effondrées. Alors, on peut avoir des dysfonctionnements au niveau de niveau particulier, comme ici, vous voyez. C'est ce qu'on appelle une transparence. Vous avez le haut qui est assez rigide. Les déformations se concentrent dans la partie inférieure. Et c'est donc ce niveau qui est le plus sollicité. Et qui peut arriver. Alors là, on est vraiment très près de la rupture, mais on n'y est pas arrivé. Voilà un autre exemple à Kobe, où là, vous voyez que la transparence était située à un niveau intermédiaire. Le reste s'est comporté à peu près correctement, mais ce niveau-là s'est effondré. On le voit également sur cette photo, où on a eu rupture à un niveau intermédiaire. Alors la résistance, évidemment, localement, il faut assurer la résistance. On voit ici des ruptures donc dans des poteaux à différents niveaux. Et voilà une autre photo. Alors ça, c'est pas un bâtiment, c'est un silo, mais cette photo pour moi est intéressante parce qu'elle montre, vous voyez ce poteau, en fait, il porte des charges, des masses assez importantes qui sont accélérées. Et en fait, les sollicitations, c'est-à-dire les moments, sont les mêmes en haut et en bas du poteau. Mais on voit que la conception était complètement différente en haut et en bas. En haut, il y a très peu d'acier et on a eu une rupture fragile, une rupture brutale. Alors qu'en bas, il s'est formé une belle rupture, une belle rotule plastique, et tout ça, ça a tourné gentiment, ça s'est plastifié, tout simplement parce qu'il y a une cache d'armature suffisamment bien faite. Et en fait, c'est ce genre de comportement qu'on essaye d'avoir dans les structures en béton. Alors évidemment, il faut maîtriser la stabilité locale. Vous voyez ici un exemple, mais pour qu'il n'y ait pas de jaloux, je vais vous montrer qu'on peut aussi avoir des instabilités dans des poteaux métalliques. Voilà. Enfin, un voilement local de poteaux métalliques. Alors, bon, évidemment, on pourrait parler très longtemps de ces problèmes de conception. Je vais simplement, pour terminer, mettre, disons, l'accent sur deux aspects de la conception moderne vis-à-vis du séisme, mais qui peut également être valable pour les problèmes de résistance aux tornades ou des choses comme ça. Le premier, c'est la méthode de dimensionnement en capacité. Alors, dimensionnement en capacité, c'est la traduction française, bon, j'espère pas trop mauvaise, de capacity design en anglais, et dont les objectifs sont les suivants. Je vous l'ai dit, on essaye de faire travailler les structures largement dans le domaine post-élastique, c'est-à-dire qu'on va faire appel à leur plastification. Bon, tout le monde a déjà pris un trombone hein, et plastifié un trombone. Vous savez ce que ça veut dire. On va faire la même chose pour les structures. Mais évidemment, il faut le faire en maîtrisant le processus. Hein, on ne veut pas tout plastifier et puis que ça s'écroule. Hein, donc il faut que tout ça, ce soit bien maîtrisé. Alors la méthode du dimensionnement en capacité permet de maîtriser un certain nombre d'aspects du problème. La première chose, c'est le positionnement des rotules plastiques, ce qu'on appelle les zones dissipatives. On peut, dans une structure hyperstatique, positionner les rotules où on veut. Mais on va imposer qu'elles soient plutôt dans les poutres que dans les poteaux. Parce qu'on voit qu'un tel système... Alors, on ne peut jamais éviter la rotule en pied, ça, c'est impossible. Mais par contre, les autres, on peut les mettre là. Et on voit que le système va donc se déformer, mais se déformer avec des rotules dans les poutres. Si à la limite, il y a rupture, on aura rupture d'une poutre, mais on n'aura pas rupture de l'ensemble de la structure. On va vouloir aussi empêcher la formation de mécanismes instables. Alors, tel que je vous montre ici sur le schéma, hein, vous voyez, mettre trois rotules plastiques successives. Ici, ce n'est pas très bon, on le sent très bien, hein, ça peut conduire à une instabilité. Ou de la même façon, hein, si on met dans un cadre tel que celui-ci quatre rotules dans les poteaux, eh bien, on voit qu'on a un système qui tente à l'instabilité. On va également essayer d'empêcher les rotules fragiles, les ruptures fragiles. Pour ça, dans les mécanismes en fait, qu'on va considérer, vous avez des mécanismes qui sont dits ductiles, c'est-à-dire qu'on a une certaine réserve de plasticité hein, qui permet de les faire fonctionner en maîtrisant à peu près le comportement. Il y a d'autres mécanismes qui sont fragiles, hein, où ça casse comme la glace. C'est-à-dire que vous arrivez à une limite et puis là, crac, ça casse. D'accord ? Alors évidemment, c'est ce qu'on veut éviter, c'est ça les mécanismes fragiles. Alors un des moyens, eh bien, c'est de faire du dimensionnement en considérant simplement l'équilibre hein, et en prenant en compte la capacité réelle des sections. Alors là, on fait du dimensionnement qui n'est pas du tout basé sur du calcul, enfin qui est en partie basé sur du calcul des structures, mais pas seulement. Alors je prends un simple exemple, on a une poutre ici. On sait que dans les poutres, les ruptures par effort tranchant sont des ruptures en général fragiles, et donc on souhaite les éviter. Et donc on va donner un surcroît de résistance vis-à-vis de l'effort tranchant par rapport à la flexion. Alors la flexion, on a déjà déterminé par le calcul des rotules plastiques aux deux extrémités, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Hein, et donc on connaît les moments passant par chacune des rotules plastiques. Et bien là, il suffit d'écrire l'équilibre de ce morceau de poutre pour déterminer l'effort tranchant que la structure à laquelle on doit nécessairement vérifier pour qu'il n'y ait pas de rupture. Alors cet effort tranchant qu'on calcule simplement ici par l'équilibre n'a rien à voir avec celui qu'on sort du calcul de structure. Donc voilà, j'ai pris simplement quelques exemples, dimensionnement en capacité est plus large que ça. Alors un deuxième aspect qui est une ouverture, c'est que dans les périodes récentes, je veux dire dans les quelques années qui viennent de s'écouler, est apparue une nouvelle méthode de calcul hein, qu'on appelle l'analyse en poussée progressive en français, qui est le pushover en anglais. Cette analyse tend à être beaucoup plus fine que la méthode du coefficient de comportement que je vous ai montré tout à l'heure. La méthode du coefficient de comportement, elle marche bien, mais elle est quand même extrêmement approximative. Je dirais même que c'est un petit peu de la cuisine, pour dire les choses comme elles sont. Mais ça marche bien. Je veux dire, on voit que les bâtiments qui ont été conçus comme ça tiennent, et c'est donc satisfaisant. Mais par contre, c'est pas tellement satisfaisant sur l'esprit, et surtout, ça permet pas de bien évaluer ce qui se passe dans un bâtiment existant. Alors cette méthode, elle consiste simplement à prendre le bâtiment, à appuyer dessus avec une répartition de force qui est déduite en fait d'un calcul dynamique élastique, et puis d'essayer donc de voir ce qui se passe quand on appuie, on plastifie, et puis on va aller jusqu'au bout comme ça, c'est-à-dire jusqu'au moment où la structure va se rompre, mais elle va se rompre simplement parce qu'elle aura atteint ses capacités de déformation limite. Alors je ne vais évidemment pas détailler cette méthode d'analyse en poussée progressive qui nous demanderait au moins une heure, mais simplement pour dire qu'on va construire ici, donc dans un diagramme qui est grosso modo un diagramme force-déplacement, un spectre de capacité qui correspond en fait à la capacité de résistance de la structure quand on la pousse comme ça. Hein. Je la pousse progressivement et donc je fais apparaître des déplacements de plus en plus importants. Alors en face de ça, on va simplement mettre le spectre qui correspond à l'hypothèse de calcul. Alors qu'on présente ici, non plus dans un diagramme période accélération, mais on peut le transformer pour le présenter en déplacement accélération. Et donc le but du jeu, c'est de démontrer que la capacité de la structure est supérieure en fait à l'action qui va lui être appliquée. hein, toujours suivant le même principe de vérification de fiabilité, c'est-à-dire que l'effet reste inférieur à l'effet de l'action reste inférieur à la résistance qui, en l'occurrence, se traduit en termes de déplacement. Donc voilà, alors ça c'est plutôt une ouverture, c'est pour montrer que c'est le genre de science qui évolue toujours. Alors pour terminer simplement sur l'aspect sismique, on voyait que en faisant un bon dimensionnement d'ensemble, en recherchant une utilité au niveau local, c'est-à-dire de chaque élément, mais également au niveau global, en utilisant évidemment des matériaux appropriés et en mettant des dispositions constructives appropriées à chacun de ces matériaux, et évidemment ce n'est pas du tout les mêmes si on considère du béton ou de l'acier, en faisant des calculs, et si possible des calculs élastoplastiques, comme ceux que je viens de montrer, et évidemment, il ne faut surtout pas oublier, dans le cas présent, un soin dans la construction exemplaire, ce qui est peut-être le plus difficile à obtenir. Eh bien, on arrive à faire des constructions, comme je vous le disais tout à l'heure en vous montrant les tours de San Francisco, eh bien, des constructions qui sont tout à fait aptes, hein, à résister à des séismes ou à des tornades, etc. Je veux dire, l'art de l'ingénieur, aujourd'hui, permet de faire ça. Alors, je voudrais simplement, par cette photo, vous rappeler que nos grands anciens savaient déjà construire des choses élégantes, hein, avec des grandes portées, et je vous remercie pour votre attention.
Philippe Biche, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Alors, levez bien la main parce que on voit pas grand chose. Avec les lumières, on est très aveuglé. Et donc, nous avons une question sur notre gauche, le monsieur là-bas.
Bonjour, je calcule des bâtiments à l'étranger avec le règlement de l'ex-URSS où on nous demande de faire des passages avec les accélérogrammes. Alors, expliquez-moi, si vous pouvez, pourquoi dans le règlement PS92, on ne parle presque jamais d'accélérogramme et est-ce qu'on en parlera dans l'Eurocode 8
Alors, on n'en parle pas dans les PS92. On en parle un petit peu, puisqu'en fait, dans les PS92, on vous autorise à des méthodes de calcul qui ne sont pas des méthodes spectrales. Hein, et notamment les méthodes temporelles, donc qui utilisent des accélérogrammes. Et vous retrouvez, non pas dans les PS92, mais dans les recommandations de la FPS, une méthode pour choisir les accélérogrammes, hein, mais qui n'ont pas été incluses, c'est vrai, dans les PS92. Il faut dire que tant qu'on reste dans un calcul linéaire, il n'y a pas d'intérêt majeur à faire des calculs temporels. Hein. C'est utile uniquement quand on fait des calculs non linéaires, pour des raisons quelconques. Alors, par contre, dans l'Eurocode 8, eh bien, on autorise tout à fait à faire des calculs chronologiques. Hein, donc c'est prévu, et il y a une méthode de choix des accélérogrammes qui est indiquée.
Le règlement russe, qui date de 25 ans, dit qu'on doit faire un calcul avec un accélérogramme élastoplastique, en tenant compte de la dissipation du matériau. Alors, j'avoue que pour des bâtiments à voile, j'ai toujours pas compris comment on faisait.
On peut faire ça. Encore une fois, c'est autorisé. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure façon de faire de la conception. Hein, mais on peut tout à fait le faire, mais ça se présente surtout de l'intérêt quand on veut effectivement faire du calcul non linéaire. Alors si c'est élastoplastique, on peut le faire. À mon avis, ça ne justifie pas pour des bâtiments courants. C'est-à-dire pour des bâtiments courants, il vaut mieux des méthodes plus simples, mais qui sont fiables, c'est-à-dire qui ont une certaine robustesse. Hein. Je crois que c'est les méthodes, la plupart des méthodes utilisées aujourd'hui aux États-Unis, au Japon, en Europe, sont des méthodes basées sur le coefficient de comportement. Alors effectivement, c'est très sommaire, d'une certaine façon, mais c'est fiable, ça marche.
Une question maintenant, monsieur, là, au centre.
Oui. Il y a des zones sismiques répétitives et hautement mortelles, puisqu'il y a eu des séismes qui ont fait une fois 20 000 morts, à peu près au même endroit, signalons la Turquie, l'Algérie et bien d'autres. Il n'y a pas moyen d'avoir des travaux comme des barrages terrestres qui cassent les scissures et les fractures dont on connaît à peu près les orientations.
Alors là, on vient sur un autre problème, l'origine des séismes. L'origine des séismes est quand même, pour l'essentiel, continentale. Je veux dire, c'est dans les zones de subduction, et on peut pas... l'énergie que peut mettre en place l'activité humaine n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur des énergies qui sont en cause. Je crois que La bonne réponse, elle est à deux stades. Je ne crois pas qu'on puisse aller contre les forces de la nature, en d'autres termes. C'est pas possible, d'accord ? On n'a pas les moyens en termes d'énergie. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Hein. Les énergies sont réellement considérables D'accord ? Donc les seuls moyens pour se protéger, d'abord, c'est de faire de la construction parasismique, et ça marche. Donc il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison de s'en priver, puisque ça marche. D'accord ? Puis l'autre moyen qui est quand même intéressant, c'est la prédiction et la prévention. Alors la prédiction, c'est un sujet qui est évidemment très à l'ordre du jour, mais qui n'est pas abouti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas prédire les séismes dans un délai raisonnable. Les prédire à 1000 ans, on sait faire. Je veux dire, on sait qu'il peut y avoir des séismes. Mais ce qui est intéressant, c'est de les prévoir pour le lendemain ou pour l'heure qui suit. Et ça, on ne sait pas faire encore. Alors c'est probablement une des voies intéressantes parce que ça permet effectivement au dernier moment de prendre des précautions particulières pour protéger la population. Bon, ça, c'est le premier volet. Et puis la deuxième chose, c'est la prévention. Hein, c'est-à-dire que la prévention, déjà, la première chose, c'est de faire de la construction parasismique. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir des équipes de secours suffisamment aguerries, des équipes de soins, etc., qui permettent d'intervenir très vite en cas de séisme. Ce qu'il faut dire, dans un pays comme la France, la rotation du parc immobilier est de l'ordre de 100 ans. Donc aujourd'hui, on construit dans les zones sismiques, on construit parasismique, enfin on est censé le faire, mais ça veut dire que pour aboutir à un parc entièrement renouvelé, eh bien si on ne fait rien sur le parc existant, il faudra attendre 100 ans. Voilà. Alors donc le choix, il est simple, c'est un choix économique. C'est est-ce qu'on laisse les choses en l'état en disant on fait de la construction neuve parasismique et en laissant l'existant, ou est-ce qu'on consacre ce qu'il faut, mais ce qui sera très coûteux, il faut bien le voir, pour renforcer l'existant. Alors, c'est un choix socio-économique, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Une question là, monsieur.
Bonjour, c'est pour savoir, pour un architecte, quel serait le rêve en sécurité incendie pour tout ce qu'il pourrait y avoir, s'il avait la possibilité justement de le faire, dans ses plans, dans ses... Vous voyez ce que je veux dire ?
Il y a des règles pour la sécurité incendie, vous avez des normes même, donc il suffit de les respecter. Après, vous...
Mais en faisant au-delà, s'il voulait faire en plus...
Alors, aujourd'hui, il y a des programmes de recherche qui sont en train d'être montés sur les problèmes de sécurité incendie dans les bâtiments. C'est effectivement des vrais problèmes, mais qui font appel à l'analyse de risque, par exemple, qu'on utilise pas mal dans le domaine industriel. Et là, il y a probablement des progrès à faire pour la stabilité au feu des éléments, mais surtout pour l'organisation fonctionnelle des structures. Alors tout ça, il y a des programmes de recherche, mais dire, il y a déjà des règles existantes, et celles-là, on peut les utiliser. Elles ont montré quand même une certaine efficacité.
Encore deux questions. Là d'abord sur notre droite. Monsieur, oui, levez-vous. Merci.
Oui. Oui, monsieur le conférencier, si vous permettez, pour l'avant-dernière question, on peut dire que cette question de barrage qui a été posée, c'est en cours d'étude, puisqu'il y a trois grands projets en ce moment où on pense creuser et poser des laboratoires en profondeur. Je crois qu'il y a un projet en Californie, un projet au Japon et un projet qui n'est d'ailleurs pas très loin du pont en Grèce où on nous a exposé. Ces projets-là ont été exposés il y a 2 ans dans des cours au Collège de France. Bien, ce que je voulais vous demander, je ne sais pas si vous pourrez nous répondre puisque votre collègue a été aussi conférencier avant-hier, mais que pensez-vous de la rupture du terminal F de Roissy ? Est-ce qu'il s'agit là d'un comportement du calcul ou du comportement des matériaux, comme il a été dit ?
Écoutez, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre pour 2 raisons. D'abord, je ne connais pas suffisamment le dossier et je pense que le minimum que peut faire un ingénieur, c'est ne regarder que les faits et pas s'en tenir simplement à ce qu'on en dit dans les journaux. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que comme il y a de toute façon une expertise judiciaire en cours, je serais malvenu d'interférer dans les problèmes de la justice. Mon avis, c'est qu'il y a tout un ensemble de causes possibles qui vont de la conception jusqu'à la réalisation ou à la qualité des matériaux. Je dirais, dans ce domaine, tout est possible.
Une dernière question, monsieur. Levez-vous qu'on vous voit bien sur notre...
Oui, bonjour. Dans les immeubles de grande hauteur, est-ce que la structure reste la même de bas en haut Est-ce qu'il n'y a pas un amincissement des murs, de la structure?
Oui, généralement, si vous voulez, les structures résistent, comme je l'ai dit, d'abord au poids propre, hein, au poids des structures. Et évidemment, elles sont beaucoup plus importantes en pied. Le poids augmente, enfin le poids que supportent les structures augmente au fur et à mesure que vous descendez. Donc généralement, dans les bâtiments de très grande hauteur, vous avez des structures qui évoluent au fil des étages. Hein. Tout à fait naturellement, simplement pour s'accommoder aux forces qui sont à résister.
En apparence,
parlez dans le micro. Parlez dans le micro.
On n'a pas cette impression quand on voit, par exemple, la structure des deux tours qui sont écroulées là, aux États-Unis. On a l'impression que la structure reste homogène de bas en haut.
Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Ça m'étonnerait que c'était homogène. Probablement que les planchers étaient à peu près les mêmes partout, puisque oui, chaque plancher résiste à peu près aux mêmes charges. Imaginez. Je serais étonné qu'il n'y ait pas eu des variations pour un bâtiment de telle hauteur sur les sections. Mais je dois dire, je ne connais pas suffisamment la structure pour vous être parfaitement affirmatif. Maintenant, la structure, on ne la voit pas souvent dans un bâtiment, hein, puisque les architectes ou les gens qui font l'aménagement intérieur cachent les structures. Ce qui est souvent dommage, parfois les structures sont jolies et on peut les montrer. D'ailleurs, vous avez vu l'immeuble que je vous ai montré à Londres tout à l'heure. L'architecte n'a pas du tout hésité à montrer la structure porteuse qui est un arc. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas.
Philippe Biche, merci beaucoup.